إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, nous sommes réunis aujourd'hui pour commencer une série de cours ou un séminaire qui sera sur 5 semaines, Inch'Allah. Le thème qui m'a été désigné, c'est un épître sur la croyance authentique. Cet épître, c'est l'épître qui est connu sous le nom des trois principes de base. Il a été écrit par le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab al-Tamimi, rahimahullah. Il a été nommé ainsi car il renferme les trois questions auxquelles chaque personne devra répondre dans la tombe. Les trois principes de base, c'est-à-dire les trois points sur lesquels chaque personne sera interrogée dans la tombe. Les trois questions que les anges vont poser à chaque personne qui entre dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Donc la connaissance du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de notre Créateur, la connaissance de notre religion et la connaissance de notre prophète. Cet épître, il avait l'habitude d'être enseigné par les savants pour le commun des gens, dans les mosquées, dans les maisons, dans chaque endroit, car ils avaient compris la nécessité que chaque musulman connaisse ces trois points essentiels. Puis, ce livre a été réuni d'une forme que l'on connaît aujourd'hui, où avant de commencer à entrer dans le vif du sujet qui sont les trois principes de base ou les trois fondements ainsi que leurs preuves, il y a deux introductions à cela. Beaucoup de gens croient que ces deux introductions font partie du premier livre de base qu'il avait écrit Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, mais non. En fait, c'est deux lettres à part entière, deux lettres distinctes qui avaient été faites distinctement de l'épître sur les trois principes de base. Puis après, elles ont été réunies, elles ont eu l'habitude de rester avec comme une introduction à cela. Donc, on va les lire et les traiter aussi, mais en réalité, c'est deux épîtres ou deux écrits, deux petites lettres distinctes de l'épître des trois principes de base. Bismillahir Rahmanir Rahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din al-Islam bil adilla. Al-thaniyatu al-'amal bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، سورة محمد. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم. Tout écrivain commence son écrit, son épître par بسم الله الرحمن الرحيم, en copiant en cela le Coran. Allah, il a commencé le Coran par بسم الله الرحمن الرحيم. Aussi, en prenant exemple sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant ses écrits. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoyait des écrits aux rois et aux différentes personnes, il commençait ses écrits par « Bismillahir Rahmanir Rahim ». Donc cela fait partie des politesses de l'écriture selon l'unanimité des savants, de commencer son écrit par Bismillahirrahmanirrahim. C'est un moyen de demander l'assistance à Allah, tabarak wa ta'ala. On demande l'aide d'Allah par tous ses noms et ses attributs, et spécifiquement Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc la traduction approximative du passage que l'on vient de lire, avant de l'expliquer, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre points essentiels. Le premier, la connaissance, c'est-à-dire connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Le deuxième, l'application de cette connaissance. Le troisième, inviter les autres à cette connaissance. Le quatrième, endurer la persécution et les nuisances qu'on affronte lorsqu'on invite les gens à cette connaissance. La preuve de cela est dans la parole d'Allah que voici, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'humanité est en grande perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui accomplissent de bonnes œuvres, qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement la patience. Sourate Al-Asr. Al-Shafi'i rahimahullah a dit: si Allah n'avait rien fait descendre comme preuve à ses créatures excepté cette sourate, elle leur aurait suffi. Al-Bukhari rahimahullah a nommé un des chapitres de son livre Al-Jami' al-Sahih le chapitre « La connaissance passe avant la parole et les actes ». Comme preuve, la parole suivante d'Allah « فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ » Sache que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et demande pardon pour tes péchés. Allah a donc commencé par la connaissance. Les quatre points de cette introduction, de cette lettre préalable aux trois principes que le cheikh a cité en disant « Sache qu'Allah te fasse miséricorde ». Donc il invoque Allah tabarak wa ta'ala pour l'étudiant. Et ceci montre que l'enseignant doit être miséricordieux envers ses étudiants, invoquer en leur faveur et montrer qu'il veut le bien pour eux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre points. Donc il a cité les quatre points qui sont obligatoires à apprendre. Le premier point est la connaissance, c'est-à-dire connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Premièrement, quelle est la science obligatoire ? De connaître Allah. Donc le sujet de la science obligatoire, c'est quoi ? Allah, la religion d'Allah et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la science obligatoire pour tout musulman est de connaître Allah, son créateur, la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est la religion de l'islam, et son prophète, qui est le prophète Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est le sujet, l'objectif de cette science. Le deuxième point, cette science, comment elle doit être demandée ? Bil adilla, avec des preuves. Donc la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion d'Allah et la connaissance du messager d'Allah, elle doit être avec des preuves et non pas par suivi aveugle. La foi acceptée auprès d'Allah, c'est la foi qui est basée sur des preuves. Et on va parler un petit peu plus en détail. Que veut dire les preuves ? La preuve, cela veut dire que la personne a une croyance ferme, sans aucun doute, que sa croyance en Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, et comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager d'Allah, est basée sur des preuves légales et religieuses. Il n'est pas nécessaire à tout un chacun parmi le commun des musulmans de mémoriser les preuves. Par exemple, on va attraper une personne qui sait ni lire ni écrire parmi les musulmans dans la campagne, une femme âgée musulmane dans la campagne, on va lui dire quelle est la preuve qu'il faut adorer Allah. Quelle est la preuve que Allah est notre Seigneur, que l'islam est notre religion, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre messager? Il ne lui est pas demandé, elle, de nous réciter par cœur les versets ou les hadiths prouvant cela. Non, quand on dit avec des preuves, c'est de savoir, d'avoir la conviction certaine qu'Allah a cité ça dans le Coran. Pourquoi tu crois qu'Allah c'est notre Seigneur? Parce qu'Allah l'a dit dans le Coran. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Même si la personne, elle l'a entendu une fois le verset, après elle ne se rappelle plus quel est le verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'en souvient plus. Mais elle se souvient qu'Allah, dans le Coran, il lui a ordonné de l'adorer. Elle se souvient qu'Allah, dans le Coran, il a dit que la seule religion agréée auprès d'Allah est l'islam. Elle se souvient qu'Allah, dans le Coran, a dit qu'il a envoyé des prophètes et des messagers, que Mohammed est le dernier prophète et messager. Ou dans les hadiths. Ce n'est pas spécifique qu'au Coran. Les hadiths authentiques ont le même statut. Ce sont des preuves à part entière. Donc, cette connaissance des preuves qui est demandée au commun des musulmans c'est une connaissance générale. C'est quand on lui dit pourquoi tu es musulman, elle dit parce qu'Allah il a révélé le Coran et dans le Coran Allah il m'a ordonné d'être musulman, de suivre cette religion, de suivre cette voie qui est la voie qu'il agrée. Ça doit être ça sa réponse et non pas parce que mes parents sont musulmans, parce que je suis né dans un pays musulman. Ça c'est pas une réponse acceptable. Ça ce n'est pas une foi acceptable. La foi acceptable c'est celle qui est basée sur des preuves, sur la science. Comme on voit, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit d'être persuadé et d'être sûr que c'est Allah dans le Coran qui nous a ordonné de suivre cette voie. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour cela. Et que cette obligation incombe à toute personne. Donc le commun des gens, il leur suffit d'avoir cette connaissance générale que celui en qui ils ont cru comme Seigneur subhanahu wa ta'ala et la religion qu'ils ont suivie et le messager en qui ils ont cru, tout ceci est confirmé avec des preuves et des arguments religieux clairs et précis. D'ailleurs, la connaissance détaillée des preuves est demandée aux gens qui ont une spécificité, qui est un fardu kifai, c'est une obligation communautaire. C'est-à-dire, si une partie des gens connaît le détail des preuves, le reste des musulmans n'est pas dans l'obligation de connaître le détail des preuves. Leur obligation, c'est de retourner, de revenir vers ces gens-là. Par exemple, le dirigeant des musulmans, le mufti, le savant, le juge, l'enseignant, eux, leur obligation est plus grande. Eux, ils ont un besoin de connaître le détail des preuves pour pouvoir répondre, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir éclaircir, à la différence du commun des musulmans. Donc, le premier point, c'est la connaissance. Connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Donc on a expliqué qu'est-ce que cela voulait dire avec ses preuves. Le deuxième point, c'est appliquer. C'est-à-dire appliquer cette science. Cette connaissance que l'on a acquise, il faut la mettre en pratique. Car l'objectif de la science, c'est de savoir comment plaire à Allah, comment adorer Allah correctement, comment pratiquer la religion de l'islam, comment croire en Allah, comment croire aux informations qui nous ont été révélées, et comment mettre en pratique ses ordres et délaisser ses interdits. Si une personne a cette connaissance et elle ne la met pas en pratique, que se passe-t-il? Ceci est un témoin contre lui le jour du jugement dernier. Donc la science utile, c'est la science qui te pousse à agir, à mettre en pratique. D'ailleurs, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah disait « Je n'ai pas entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que je ne m'empresse à le mettre en pratique. » Et je ne me suis pas empressé à le mettre en pratique sans qu'Allah m'ait permis de le mémoriser. Combien mémorisait-il de hadiths? Est-ce que quelqu'un sait? Il est dit qu'il mémorisait 1 million de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1 million si on prend en compte les répétitions et les différentes chaînes de transmission du même hadith. Donc, ces imams, ils avaient compris l'objectif de la science. Ils l'entendaient, ils le mettaient en pratique. Et quand ils le mettaient en pratique, Allah lui permettait de le mémoriser. C'est pour ça qu'Allah en a fait des imams. Ces personnes, rahimahumullah. Le troisième point, c'est le fait d'appeler les autres à cette connaissance. Et l'appel des gens à la connaissance, c'est une obligation qui incombe à chacun selon ses moyens, selon ses capacités. Tu connais un verset, tu transmets un verset. Tu connais deux versets, tu transmets deux versets. Chacun selon ses capacités a l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, bien sûr, à condition qu'il connaisse ce à quoi il appelle. Donc il doit avoir une connaissance de ce à quoi il appelle, il doit avoir une connaissance des personnes à qui il s'adresse, et il doit avoir connaissance de la situation des personnes à qui il transmet. Et il doit user de sagesse dans la manière de transmettre. Comme Allah Ta'ala nous a ordonné, « Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al-hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. » Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation, et débat avec eux de la meilleure des manières. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a expliqué vers qui il l'envoyait. Tu es envoyé vers des gens du livre. Donc il sait qui il va prêcher. Il ne prêche pas des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Allah. C'est-à-dire qu'ils étaient auparavant sur une base de religion vraie, mais ils ont dévié. Cela a été falsifié. Donc il y a une base en eux qui est vraie, il y a une base qui est falsifiée. Donc sache comment tu vas aller les prêcher. La première chose à laquelle ils appellent, à l'adoration d'Allah, à attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les
qu'Allah leur a rendu 5 prières obligatoires dans la journée et la nuit. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah a imposé une zakat que les riches parmi eux donnent aux pauvres parmi eux. Donc regardez, il lui a enseigné comment appeler à Allah graduellement, en commençant par le plus important, pour aller à l'important, mais qui a un degré moindre que le premier, qui est le tawhid. La troisième point donc, c'est inviter les gens à Allah. Et appeler les gens à Allah, tabaraka wa ta'ala, comme on a dit, il faut que ce soit fait avec clairvoyance. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Comme il est venu dans sourate Yusuf, Allah ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Le quatrième point, c'est le fait d'endurer, de patienter face aux persécutions et aux nuisances que l'on subit quand on invite les gens à cette connaissance. Cette endurance, elle intervient à plusieurs degrés. Premièrement, au moment de l'apprentissage, il faut patienter. Car l'apprentissage, ça demande une patience, ça demande un effort, ça demande du sacrifice. Si la science, elle s'acquérait en restant allongé, tout le monde serait savant. Pourquoi certains sont savants et d'autres ne le sont pas? Car certains ont sacrifié, certains ont voyagé, certains ont enduré. Quand on entend comment les savants de l'époque ont voyagé, ont enduré à d'autres chameaux, à pied, parfois pour un seul hadith que l'on lit tous aujourd'hui, on comprend comment Allah Ta'ala les a élevés, et les a aimés et les a choisis et pourquoi nous devons les respecter. Donc la patience, elle s'exprime à plusieurs étapes. Au moment de l'apprentissage, au moment de la mise en pratique. La mise en pratique, elle demande une patience. Il y a une part de difficulté dans l'obéissance d'Allah. Mais c'est une difficulté acceptable, surmontable. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne nous a pas imposé une chose qui est au-dessus de nos capacités. Tout ce qu'Allah nous a imposé dans le Coran, comme halal et haram, c'est qu'on est capable de le pratiquer. Sinon, Allah ne nous l'aurait pas imposé. Mais bien sûr, ça demande un petit sacrifice, un petit effort. Effectivement, la salat, elle demande que tu te lèves la nuit, tu coupes ton sommeil, tu fasses les ablutions. Le hajj, ça demande un voyage, ça demande un sacrifice d'argent, ça demande un peu de difficulté physique à subir. Marcher, aller à Mina, aller à Arafat, aller à Muzdalifa, passer la nuit à Muzdalifa, aller lapider les pierres, venir faire le tawaf, faire le sa'i. Il y a un petit peu d'effort à faire. N'est-ce pas? Donc, l'obéissance d'Allah demande de la patience. Et cette patience, elle s'exprime aussi quand on prêche, quand on appelle les gens à Allah. Quand on invite les gens à croire en Allah, à apprendre cette science et à la mettre en pratique. Effectivement, on va subir des difficultés, des persécutions, des nuisances, n'est-ce pas? Des insultes. La personne, elle peut même être menacée dans son intégrité, dans sa vie. Est-ce qu'on ne lit pas la vie des prophètes, alayhi salatu wassalam, quand ils ont appelé à adorer Allah seul, qu'ont-ils subi comme persécution, comme insulte, comme dénigrement, comme attaque, comme vexation? Imaginez-vous les prophètes d'Allah, les meilleurs des hommes. Ils sont traités de sorciers, de magiciens, de menteurs. Subhanallah, un prophète menteur. C'est pour eux, c'est la plus grande des insultes. Quelqu'un de véridique qui n'a jamais menti de sa vie, on le traite de menteur. Pour les gens aujourd'hui, menteur, c'est comme bonjour, au revoir, parce que les gens, ils mentent comme ils respirent. Illa man rahimahullah. Ce grand péché, il est devenu maintenant monnaie courante. Mais les prophètes, ils ne connaissent pas le mensonge. Ils sont véridiques. Alors quand leurs proches, et les gens qui les connaissent, les gens de leur peuple, qui savent qu'ils sont véridiques, ils les traitent de menteurs. Comment c'est lourd à leur poitrine. Alayhi salatu wassalam. Donc, connaître ces quatre points est une obligation et une nécessité pour chaque personne, pour ne pas être parmi les perdants. Et la preuve de cela, il l'a cité, la preuve de cela est dans la parole d'Allah. Par le temps, l'humanité est en grande perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui accomplissent de bonnes œuvres, qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement la patience. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit, si Allah n'avait rien fait descendre comme preuve à ses créatures, excepté cette sourate, elle leur aurait suffi. C'est-à-dire, elle leur aurait suffi comme preuve et comme obligation d'appliquer la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans les informations ou dans les demandes. Quand on dit appliquer la loi d'Allah dans les informations, qu'est-ce que ça veut dire? Croire en ce qu'Allah a déterminé concernant Allah Ta'ala, concernant son être, concernant ses attributs, concernant les choses de l'invisible, concernant le paradis et l'enfer, concernant les piliers de la foi, comme on va le voir plus tard, inchallah. Ceci est donc la croyance, c'est le fait d'obéir à Allah dans ses ordres liés aux informations. Car ceci n'est pas un acte apparent, n'est-ce pas? Et la deuxième partie, concernant ses demandes, c'est le fait de mettre en pratique toutes les pratiques apparentes, que ce soit avec la langue, ou que ce soit avec les membres, ou que ce soit aussi les actes du cœur, comme la confiance en Allah. Donc, quand l'imam Shafi'i dit, cette sourate leur aurait suffi comme preuve, c'est-à-dire comme preuve pour agir, comme preuve, comme quoi il est obligatoire pour eux d'appliquer les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a cité une parole équivalente en nommant un chapitre. Un des chapitres de Sahih al-Bukhari, la connaissance passe avant la parole et les actes. Comme preuve, la parole suivante, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et demande pardon pour tes péchés. Allah a donc commencé par la connaissance, c'est-à-dire avant la parole et les actes. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah ». Donc apprends. Il faut d'abord apprendre le tawhid pour pouvoir le mettre en pratique, pour pouvoir le concrétiser. Donc si pour le plus grand des ordres, qui est le tawhid, l'unicité d'Allah, on doit apprendre, et l'apprentissage passe avant la mise en pratique, cela prouve que pour toute chose en islam, la connaissance passe avant la parole et les actes. C'est pour cela que les savants disent, il n'est permis à aucune personne de faire ne serait-ce qu'un pas sans savoir l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose, avant de l'accomplir. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a été précédé en cela par le cheikh de ses chouyours, qui est Soufyan ibn Uyayna, qui avait cité une parole équivalente, comme l'a cité Abu Nu'aym al-Asfahani dans Hilyat al-Awliya. De même que d'autres savants ont utiliser des propos équivalents et semblables concernant le fait de mettre le nom de certains chapitres, le chapitre de la science avant les paroles et les actes.